Écoutez, c'est la rediff de Sur Place ou à emporter. Midi 14h sur It West.
C'est parti pour le nouvel an chinois pour cette année 2022. Pardon, il est fêté aujourd'hui, 1er février.
Dans l'Ouest, de nombreux événements lui sont dédiés. Par exemple, la 12e édition de la semaine chinoise à Rennes, c'est jusqu'à dimanche prochain. Ou encore à Rezé, près de Nantes, où un dragon va défiler samedi dans les rues de la ville. Pour parler du nouvel an chinois ce midi, on accueille Mai, qui est une Nantaise d'origine justement chinoise arrivée en France en 2003. Bonjour Mai.
Bonjour.
Bonjour tout le monde.
Mais le nouvel an chinois célèbre cette année celle du tigre. Ça veut dire quoi dans la culture chinoise?
Le tigre, c'est un animal, comme vous le savez, c'est le roi de forêt, le roi de jungle. Donc pour les Chinois, c'est un animal fort. Et on a deux signes dans l'astrologique chinois. Le tigre, c'est un animal que cette année-là, en fait, souvent les Chinois, ils aiment bien faire le pépé. Le pépé tigre, c'est quelque chose qui symbolique un caractère fort, courageux.
Ouais.
Et voilà, plein de bonnes choses. Et les Chinois, ils aiment bien ce signe-là.
D'accord. Alors j'imagine que pour toi, chaque année, toi qui vis en France, à Nantes précisément, chaque année, le Nouvel An chinois, tu le fêtes dignement dans ton foyer avec ton mari et tes enfants. Qu'est-ce que tu prépares exactement?
Alors, selon les traditions, on le prépare un petit peu en avance. On fait un peu de ménage à la maison pour accueillir cette nouvelle année. On a beaucoup de croyants dans la tradition. Donc, du coup, deux, trois jours avant le nouvel an, on nettoie un petit peu la maison, on fait le ménage pour la maison soit propre. Moralement et physiquement. Moralement, c'est qu'on dit que si la maison est propre, les mauvais esprits ou bien des malchances de l'année passée vont partir. Et pour accueillir les bonnes choses, les bonheurs de nouvelle année.
D'accord.
Donc souvent, le premier jour de nouvel an, on fait pas le ménage. Et parce qu'on considérait que le bonheur ou bien les belles choses sont arrivées déjà et on essaie de le capter. Jusqu'à la fin de Nouvel An chinois, ça dure environ 15 jours.
J'imagine qu'il y a de la décoration qui est mise en place chez toi. Ça peut ressembler à quoi par exemple?
On décore les portes ou bien des vitres avec le caractère bonheur. Donc ça prononce fou. On décore avec ça et avec les distiques. Donc
tu fais des petites enveloppes, c'est ça, des petites enveloppes rouges, mais que tu mets un petit peu partout avec des vœux de bonheur aussi.
Oui, c'est vrai. On décore souvent avec des fleurs. Ça signifie le prospect. Les fleurs avec les enveloppes rouges qu'on donne aux enfants. Et on décolle aussi avec les distiques sur la porte pour raconter un petit peu les espoirs ou bien les inspirations pour l'année.
Alors, vous avez deux enfants qui sont nés en France. Comment ça se passe? Il y a une volonté de transmission de la culture chinoise?
Ouais, j'ai essayé de le passer les coutumes. On s'habille en mode chinois aujourd'hui, par exemple. Hier soir, on essayait de raconter un petit peu la tradition. Tous les soirs, on répétait à peu près la même chose. On essayait de saluer la famille. Là, je n'ai pas fait encore. Je comptais à faire un petit peu plus tard, entre midi et 14h, parce que là, en Chine, maintenant, c'est le bonheur. Là.
Pour terminer très rapidement, mais il y a forcément des plats qui sont préparés bien à l'avance et que vous allez déguster en particulier chez vous. Lesquels, par exemple?
Les plats, alors, d'habitude, on fait un plat salé, ça s'appelle Nian Gao. Gao, ça veut dire élevé, augmenté ou bien une nouvelle étape. Et là, c'est un gâteau salé avec des viandes, avec des champignons parfumés. On le fait ça et pour symboliquement, cette année, il est meilleur que l'année passée.
D'accord. Bon, en tout cas, transmettre ta culture, c'est très important à tes enfants qui sont nés en France. Je rappelle, toi, tu es arrivé en 2003 dans la région nantaise et puis tu as eu des enfants avec un mari de la région. Et du coup, voilà, c'est très important de transmettre cette culture qui est très riche. Merci, May, de nous avoir illustré ce nouvel an chinois.
It West.
Écoutez, ça s'est passé aujourd'hui dans Sur Place ou à emporter. Midi 14h sur It West.
On parle du nouvel an chinois aujourd'hui dans Sur Place ou à emporter. Et on s'arrête ce midi sur le parcours extraordinaire de Jean-Pierre Leroux. C'est un Finistérien originaire de Carantec qui était un petit peu le roi du NEM dans les années 80 et après avoir ouvert une usine de fabrication dans la commune d'Invic.
Eh bien, derrière, après ça, ça a été plus compliqué. Hein, avec sa marque de produits longue, il va connaître donc cet immense succès, donner du fil à retordre aux géants de la filière, avant de finalement être contraint de vendre sa boîte. On est justement avec Jean-Pierre Leroux ce midi. Bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Oui. Oui, bonjour à vous.
Un film vous a été consacré, un documentaire, il a été diffusé au début du mois de janvier sur France 3, un film réalisé par Olivier Caillebeau. Il s'appelle Nem et Châtiment, il est inspiré du livre, ouais, Nem et Châtiment, il est inspiré du livre Mange tes Nem, ça va refroidir, que vous avez vous-même écrit. On a l'impression que vous avez déjà vécu plusieurs vies, Jean-Pierre.
Ah oui, j'ai vécu plusieurs vies et j'en vis encore... Une qui est encore passionnante, qui est l'écriture, et ça c'est passionnant, oui. J'écris maintenant, j'écris des chansons, j'écris des romans, j'écris des pour certaines personnes encore, et puis c'est très agréable comme ça, je préfère cette vie-là, cette vie trépidante que j'ai pu avoir, enfin disons que c'est une autre évolution, quoi.
Mais ouais, elle est fantastique cette vie, Anthony.
Ouais, c'est ça. En fait, vous avez tout connu hein, dans les années 80. Vous avez donc ouvert votre resto asiatique, pardon, avec votre femme laotienne. Derrière, vous avez donc lancé cette usine avec un immense succès. Vous avez tout de suite compris à l'époque que la demande était très forte.
Oui, tout de suite, j'ai compris que c'était très fort. Et comment je vais vous dire, l'explosion était de plus de 130-140% par an. Vous voyez, c'était j'ai terminé moi en faisant 150 000 nems par jour avec un chiffre d'affaires
en Bretagne, s'il vous plaît.
Oui, à Vic toujours, et on faisait un chiffre d'affaires à peu près de maintenant l'équivalent de 100 000 euros par jour. Ouais. Donc à partir de ce moment-là, vous commencez à déranger. Surtout que moi, je viens d'une famille pauvre. J'étais rien. J'ai pas un diplôme. J'ai rien du tout.
Ouais, vous êtes parti de rien, quoi.
Voilà, c'est ça. Et avec ma femme laotienne, effectivement, qui nous a beaucoup aidé dans les recettes. Et puis, vous savez, une asiatique, ça sait compter. Il s'en est avec un boulier dans la tête, donc tout va bien.
Ouais. Bon, l'essor au Denem que vous avez commercialisé donc sous votre marque, vous me rappelez le nom d'ailleurs, c'est Luang.
Luang, la marque.
Luang, oui.
Donc gros succès. Après, vous avez peut-être accusé les pitis des gros groupes industriels.
Ben c'est ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vous imposez dans les grandes surfaces, que vous leur prenez des parts de marché ou des centimètres dans les linéaires, ils sont pas contents parce qu'ils vendent moins.
Ouais, tous les coups sont permis hein, dans ce milieu-là. Hein.
Oui, et là, donc après, pour aller vite, j'ai subi des menaces et des menaces de mort, oui. Et la seule chose qu'on m'a dit, c'est tu es à vendre et tu n'as pas le choix, wow. Sinon t'es mort. Tu prends ta voiture et tu sais pas.
Ah ouais, voilà. Et vous le racontez tout ça dans votre livre?
Oui, je raconte tout ça, mais je peux vous dire que ça existe encore. C'est quand on voit le monde dans lequel on évolue aujourd'hui, c'est ça n'a pas changé. Oui, si vous avez une idée, vous voyez, il y a toutes les start-up et tout ça. Bon, il y en a qui veulent vendre, il y en a qui ont des idées et qui les vendent, pas de problème. Mais certains voudraient bien les garder et pouvoir continuer et gagner de l'argent. Il y a pas de souci à ça. Oui. Mais les gros groupes sont toujours à l'affût des petits, quoi. Regardez ce qui se passe avec Pfizer, par exemple. C'est quand même un petit laboratoire qui a trouvé l'espèce de médicament à la noix là, dont on nous parle.
Oui,
Ce documentaire Nem et Châtiment, c'était un petit peu un moyen pour vous de boucler la boucle, de revenir une dernière fois sur votre ancienne vie de patron.
C'est ça, mais quand on voit comment le monde évolue, ça ne change pas depuis des centaines d'années, c'est comme ça. Le petit est toujours attaqué, c'est David contre Goliath.
Vous avez été repris pour finir, votre entreprise a été repris par le traiteur Marie, c'est ça?
Oui.
D'accord, ouais. Ok. En tout cas, une formidable histoire.
Entre, entre, entre nous, des voyous, des gens qui sont vraiment, c'est pas bien.
Ben, on a bien compris l'état d'esprit dans lequel vous êtes.
Mais quand vous voyez un monsieur qui s'appelle Faber, qui a été l'ancien directeur de Danone, quand vous voyez ce monsieur qui est chrétien, catholique et tout ce qu'on veut, ces gens-là quand même ne font pas de cadeaux, quoi.
Non, je comprends. Vous avez beaucoup de choses à dire, et moi je vous invite à lire quand même ce livre. On va rappeler, c'est Mange tes nems, savoir froidir, livre assez virulent, et puis il y a ce documentaire 52 minutes qui est dispo sur la plateforme de France 3, c'est Plus, c'est ça,
peut-être
retrouver
Nems et Châtiments, ça s'appelle,
voilà,
en tout cas
Nems et Châtiments, et puis le livre Mange tes nems. Merci d'avoir réagi, Jean-Pierre Leroux, depuis le Finistère, sur cette histoire incroyable.
Sur place ou à emporter, tous les jours entre midi et 14h sur It West.
Dernière partie de Sur place à emporter, où on parle du nouvel an chinois. Alors cette année, le nouvel an lunaire est fêté ce 1er février en Chine, au Vietnam et partout dans le monde. C'est l'occasion notamment de déguster des spécialités asiatiques comme des nems. Ça donne faim, sérieux. Certains produits justement sont faits à partir d'une machine bretonne spécialement mise au point par une PME de Tréguin dans le Finistère.
Un engin qui est unique au monde. Il a été conçu par Pierre Offray et son fils Laurent. Il est entièrement fabriqué dans l'atelier de leur société Bretinov, qui emploie 15 personnes. Alors depuis 2018, ils en ont déjà vendu 40 et les commandes se multiplient. Alors comment fonctionne exactement cette machine à nems? Pierre et Laurent Offray ont fait une démonstration à notre reporter Yann Launay.
Donc ici, vous allez retrouver le dépileur de galettes de riz. Donc c'est ici que vous allez charger votre réserve de galettes de riz. Donc vous pouvez utiliser des galettes rondes, des galettes carrées. Donc la ventouse va venir chercher les galettes une par une. Une fois qu'on a pulvérisé de l'eau sur la galette, elle va avancer. Et ici, on va rentrer en fait dans le ramollisseur qui fait de la vapeur. Ici, on retrouve ensuite la doseuse dans laquelle le client va venir mettre sa farce. Donc c'est sa propre recette. La galette va se présenter ici devant le capteur qui va détecter l'arrivée de la galette. Et à ce moment-là, on va venir déposer un boudin de farce sur la galette. Ici, on va faire le premier roulage. C'est une des opérations les plus délicates. On va venir en fait décoller la galette de riz du tapis. Et ici, on a deux doigts qui vont venir faire un maintien et on va faire un soufflage qui lui va permettre de rabattre les deux bords de la galette vers l'intérieur. Et enfin, on a le dernier roulage pour obtenir un nem fini.
Pierre Offray, vous êtes le père de Laurent. C'est vous qui avez imaginé cette machine. Alors, comment ça vous est venu?
J'ai regardé ce qu'il y avait sur le marché. Je trouvais que c'était un petit peu aberrant ce qu'on pouvait trouver. Et je me suis dit, il y a moyen d'innover. Et c'est parti comme ça. Donc, c'est quand même quelques années de mise au point. Le plus dur, c'est de faire des choses simples. Parce que des machines avec des bras dans tous les sens, c'est possible. Mais faire des machines simples, faciles à contrôler et faciles à entretenir, parce que c'est des machines qu'il faut nettoyer tous les jours. Parce que nous, notre système de dosage, il y a trois pièces à démonter, à nettoyer. Ça aussi, c'est un des gros avantages, quoi.
Mais on pourrait vous dire, cette machine, c'est une belle réalisation technique, mais ça va mettre des cuisiniers au chômage.
Je pense pas que c'est l'idée. Vous avez vu un nem, pour fabriquer un nem, on est quand même sur une tâche manuelle assez répétitive et pénible. Donc c'est plus l'idée, au contraire, de soulager en fait des postes de travail qui étaient quand même assez répétitifs.
Oui, parce que la machine, on l'a vu, ne prépare pas tout de A à Z, elle ne prépare pas la farce. Mais malgré tout, est-ce que les nems qui sortent de la machine ont vraiment un goût comparable à des nems entièrement faits à la main?
Tout à fait, oui. Alors c'est l'intérêt de la machine, parce qu'on va vraiment travailler sur un nem traditionnel. Et la machine va juste permettre de ramollir la galette de riz et faire un petit pliage mécanique et un dernier roulage, mais qui va en rien perturber le goût, la forme ou la texture du nem. Donc vous pouvez augmenter votre production, vous pouvez automatiser, industrialiser votre production sans tricher sur la qualité de votre nem final. En fait, vous allez garder votre recette authentique, quoi.
Et vous n'avez pas peur de voir apparaître des machines inspirées de la vôtre et vendues moins cher?
On est sur un produit spécifique qui demande un accompagnement. Ce que recherchent nos clients aujourd'hui, en plus d'acheter une machine de qualité française, c'est aussi tout ce qui va être service après-vente et accompagnement derrière. Parce que c'est pas tout d'acheter une machine pas chère à l'autre bout du monde, mais si au bout de 2 mois ou 3 mois, votre machine est en panne ou que vous n'arrivez pas à la faire fonctionner correctement ou que vous avez 6 mois de délai pour avoir une pièce de rechange, ce que vous avez économisé en tarif à l'achat, vous le perdez assez rapidement derrière. Donc le but, c'est pas juste d'acheter une machine sur catalogue. Non, le client va venir ici à Tréguin en Bretagne, il va venir passer une journée avec nous, il va apporter sa farce, on va faire des essais, on va vérifier vérifier ce qui marche moins bien. On va faire des modifications éventuellement sur la machine s'il y a besoin. C'est toute cette relation de confiance qui fait que le client aujourd'hui est content d'acheter une machine made in France et je dirais même plus une machine made in Braze.
Ouais, saveur asiatique fabriquée en Bretagne. Merci pour ce reportage, Yann Launay. Si vous êtes à... Et puis d'ailleurs, l'entreprise qui recherche, qui propose des emplois, Bretinov recrute en ce moment. Toutes les infos sur le site www.bretinov.bzh.
It West. La sélection culture.
Rover débarque dans l'Ouest. Le chanteur sera en concert ce soir à la Bouche d'Air à Nantes. Demain, direction Angers pour une date au théâtre de Chanzy. Et mercredi, les Vantais pourront le retrouver sur la scène de l'Econova à Saint-Avé.
Salut Rover.
Salut.
Salut.
T'es en tournée pour défendre ton troisième album qui s'intitule Ice Keller. Pourquoi avoir choisi ce titre? Ça veut dire quoi?
Alors ça vient de l'allemand, c'est un mot allemand qui veut dire cave à glace. Alors, c'est un peu un mot qui s'est imposé. Il était dans mon souvenir écrit sur les clés de mon studio et je sais pas comment il s'est retrouvé là. Et ce mot s'est imposé, il revenait à chaque fois que tous les matins que j'ouvrais mon studio et j'avais la chance d'avoir installé mes instruments dans une ancienne cave à glace à Bruxelles. Donc tout ça faisait sens et l'album a été conçu là-bas et enregistré. Donc je l'ai appelé Ice Keller de ce fait. Sur le moment, ça me paraissait assez, j'allais dire, logique dans mon processus créatif. Et puis après, avec le recul, je me dis quand même, pourquoi se compliquer la vie, se mettre dans des endroits glaciales comme ça et hostiles. Et en fin de compte, je me rends compte que ça a fait toute l'aventure du disque. Et cette hostilité-là et ce froid et peut-être ce rapport au concret qui m'a peut-être apporté un peu d'humilité et puis de plaisir. Hein. Il y a du plaisir quand même à se sentir vivant, à sentir les éléments autour de soi qui sont pas toujours évidents. Et on trouve des solutions, on est plus inventif.
Alors sur ce troisième album, il y a 13 titres en anglais. Quel univers musical et quel thème choisi pour ces morceaux?
Oh, mais je crois que je vais parler en mon nom, mais je vois dans beaucoup de disques, dès lors qu'on fait un disque, on a toujours deux ou trois robinets à influence et des thèmes récurrents qui peuvent être le temps qui passe, l'amour ou la mort, tout simplement. Les thèmes qui reviennent, qu'on le veuille ou non, dans les chansons, ce sont les trois grands mystères de notre existence. Et je pense que c'est ce qui influe beaucoup d'artistes, en tout cas.
Ouais, Rover, toi, tu as vécu à New York, au Liban ou encore en Belgique, mais tu gardes un vrai lien avec la Bretagne et les Côtes d'Armor, car ta mère vit dans le Trégor.
Oui, c'est au-delà de tout, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment mes racines, mes vraies racines sont là. Ouais. C'est amusant parce qu'en début de semaine, je voyais les dates bretonnes s'annoncer, je regarde toujours mon planning un peu en début de semaine, et j'avais une vraie joie. Je sais que j'ai l'impression de partir en vacances. Alors, c'est un peu naïf dit comme ça, mais...
De partir en vacances ou de revenir à la maison?
Bah les deux, enfin j'associe les deux à du repos et à du plaisir. Donc je suis un peu un chauvin là-dessus sur la Bretagne. Je sais que c'est toujours bienveillant, c'est toujours assez doux. On y est bien, enfin moi je m'y sens bien.
Bien sûr, on revient toujours dans l'Ouest.
La garde. Ouais. Exactement.
Ça te met encore un petit peu plus de pression, toi, de jouer justement en Bretagne? Tu te sens encore plus attendu sur les dates bretonnes?
Curieusement, non. J'ai le sentiment que là, je me suis débarrassé un peu de ces freins qui sont la pression. À la limite, la seule pression que je me mets, c'est d'être à la hauteur de ce que je voudrais. Mais c'est certainement pas du public que je prends la pression. Je prends au contraire de la bienveillance et beaucoup d'amour. Ça, c'est réel. C'est sur cette tournée que je me rends compte à quel point c'est une nourriture et un vrai moteur, un vrai carburant pour continuer, faire d'autres disques et aller à la rencontre du public.
Et justement, tu les attends avec impatience, ces retrouvailles avec le public.
Ouais. Il y a toujours un truc particulier. Il y a toujours le rire est évident. On se lâche un peu plus. Je sais que les nombreux tons de l'équipe le sentent que je suis assez heureux d'être en Bretagne. Le chauvinisme breton, il est comme ça.
Merci en tout cas, Rover, d'avoir répondu à nos questions. On rappelle que tu es ce soir à la Bouche d'Air à Nantes. Et puis demain, tu seras à Angers au théâtre de Chanzy, enfin mercredi, à Vannes, sur la scène de l'Econova à Saint-Avé. À bientôt, Rover.
À bientôt.
Merci beaucoup. À bientôt.
It West. Écoutez, c'est la rediff de sur place ou à emporter.
Et justement, parlons-en des festivals.
Tout amené sur un plateau, hein, mais bon.
Les premiers noms commencent à être dévoilés, les billetteries sont ouvertes, mais le public reste encore un petit peu sur la réserve, ce qui peut être normal depuis la pandémie. Et justement, on va parler festival avec Carole Meyer, qui est la directrice de Hard Rock à Saint-Brieuc. Bonjour Carole.
Bonjour Carole.
Bonjour.
Bon alors pour commencer, comment vous allez? Comment vous la sentez cette édition?
On va très bien, on travaille, on est sur le pied de guerre, on avance, on est assez confiant avec le contexte sanitaire qui s'améliore un peu, donc On a déjà dévoilé une bonne partie de la programmation et on s'apprête à dévoiler tout le reste le 25 février.
Ah, le 25 février, c'est cool, on a une date parce que là j'ai vu en effet la programmation est sortie vendredi. Clara Luciani, on en parlait, elle sera à Saint-Brieuc au mois de juin. Il y aura Juliette Armanet, Phoenix, Lelo, bon pour ne pas les citer, hein, il y avait encore plein d'autres groupes. Comment réussir à se relever quand on a eu une édition 2021 un peu plus réduite?
Il faut des partenaires, il faut l'appui du public et puis vraiment, l'envie chevillée au corps de retrouver nos événements tels qu'on les connaissait. On sait qu'il y a un vrai besoin de festival. C'est quand même une expérience sociale, une expérience collective qui manque beaucoup. Donc c'est comme ça qu'on se relève. Et puis on est bien soutenu, nous, par les collectivités, par nos partenaires privés et puis par le public. Là, on voit avec les annonces de programmation et les noms que vous avez cités que le public est là, que la billetterie fonctionne et que les gens n'ont qu'une envie, c'est de faire la fête. Hein,
pour les artistes également, une grosse envie de retrouver le public dans le cadre des festivals parce que c'est toujours un petit peu différent d'un concert donné en salle. L'espoir, hein, vraiment, d'avoir une édition quasi normale.
Ah bah oui, absolument, ouais.
Vraiment, on y croit. Confiant.
On y croit. Et vous savez, finalement, l'été 2021, les jauges ont été levées vraiment au dernier moment, mais au final, on aurait pu faire des très grosses jauges cet été jusqu'en septembre, voilà. Malheureusement, on était tous partis sur des formats réduits, donc on n'a pas pu changer au dernier moment de format. Mais bon, il y a pas de raison. Là, avec la vaccination, avec tous les protocoles qui sont mis en place, vraiment, on y croit. Et puis, les festivals sont en extérieur, à une période qui est quand même un peu plus propice.
La billetterie est déjà ouverte pour vous, du coup?
Oui, la billetterie est ouverte, tout à fait.
D'accord. Alors, parlez-nous un petit peu de l'engouement qu'il y a autour de la billetterie. Est-ce que vous sentez qu'il se passe vraiment quelque chose, qu'il y a une vraie attente de la part du public?
Oui, vraiment. Alors, on a eu une petite phase, un peu de pause entre Noël et mi-fin janvier, vraiment où le contexte sanitaire était au plus bas. Et puis, bon, on sait que de toute façon, juste après Noël, en général, les finances sont un petit peu réduites, donc c'est pas le meilleur moment pour vendre des billets. Mais là, ça a repris, ça a vraiment repris ces derniers jours avec l'annonce. Le dimanche avec Clara Luciani, Lelo et le samedi avec Juliette Armanet, Gaël Faye marche vraiment très très bien, donc on s'attend à ce que ces soirs-là soient complets. Phoenix aussi est très attendu, donc on sent vraiment une attente et une envie des gens de revenir. On le voit même sur les réactions sur les réseaux sociaux, les gens n'attendent que ça, quoi. C'est fini l'époque où on disait oh mais il y a le Covid, il y a ceci, il y a cela, je crois, ouais. Que là les...
on y va, on avance, ouais, on y croit.
Exactement. Est-ce que vous cherchez encore des bénévoles?
Ah oui, absolument. On n'a même pas encore lancé les inscriptions.
Ah, c'est peut-être le moment de le faire en direct sur EatWest.
Eh ben voilà, je lance un appel à Rock. Donc c'est 600 bénévoles chaque année, et on va lancer les inscriptions vraiment dans les jours qui viennent. On est en train de peaufiner là le formulaire, la présentation des postes, etc. Mais c'est vrai que c'est une chouette aventure, et on a en général beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants qui viennent, qui s'investissent, et c'est aussi une manière de découvrir ce secteur-là. Donc voilà, il y a de la place pour tout le monde. On attend les candidatures.
Et on a hâte de retrouver toute l'équipe de Hard Rock, donc à Saint-Brieuc, du 3 au 5 juin prochain, en édition normale.
On
a beaucoup d'espoir dans ce qu'on vient de dire, et on y croit. Merci d'être intervenu, Carole Meyer, directrice de Hard Rock à Saint-Brieuc, sur It West. Dans un instant, on retrouvera le vice-président de Mégascène. C'est un autre festival, cette fois-ci, qui se déroule en Loire-Atlantique et qui est en pleine préparation.
Sur place ou à emporter? Tous les jours, entre midi et 14h, sur It West.
Party Magazine sur It West, on continue de faire le tour de l'ouest des festivals. On rêve et on y croit, édition normale pour 2022.
Exactement.
De l'ensemble des festivals.
Et justement, on est avec Teddy Motion, qui est vice-président de l'association qui gère le festival Mégascène.
Salut Teddy.
Salut Teddy.
Salut. Bonjour à tous.
Alors Mégascène, ça se trouve à Saint-Colomban.
Saint-Colomban, dans le sud de la Loire-Atlantique.
Que je dise pas de bêtises, dans le sud de la Loire-Atlantique, etc. Vous occupez le site de la Mouchetière. Et là, vous êtes en pleine préparation de l'édition 2022 qui aura lieu du 8 au 9 juillet 2022. Jusqu'ici, tout va bien.
Jusqu'ici, tout va bien, tout à fait.
Ouf.
Alors, la particularité en fait de votre festival Mégascène, c'est que toute l'équipe est bénévole, c'est bien ça?
C'est ça, dans l'organisation, on a environ 35 bénévoles à l'année. Et du coup, il n'y a aucune personne qui est salariée, que ce soit le président ou les membres du bureau.
Après 2 ans d'absence, vous êtes prêt à repartir? Vous y croyez, vous?
Alors, bon, on y croit, oui, puis on espère surtout, parce que c'est vrai que pendant 2 ans, on a annulé les festivals. En effet, au niveau des jauges, on aurait pu, j'écoutais l'interview de Hard Rock Festival juste avant, mais on aurait pu avoir une édition, mais c'était trop tard en fait pour organiser, etc. Au moment où ils ont lâché un peu les vannes, le gouvernement, donc on avait décidé d'annuler en amont pour ne pas engager trop de frais.
Teddy, est-ce qu'on perd des bénévoles en cours de route lorsqu'on s'arrête aussi longtemps pour un festival?
Bah, dans l'organisation, en effet, c'était un peu compliqué de trouver de la motivation sur les 2 dernières années, mais on est plutôt satisfait. On a quand même un renouveau qui s'est fait un peu cette année. On est toujours 35 personnes, on arrive à maintenir un peu ce cap.
La motivation après, est toujours là, en tout cas. Hein. Vous avez plus que jamais envie de revenir aux affaires.
Hein. Non, on est. Puis on a envie, surtout on a des nouveaux personnes qui sont arrivées il y a 2 ans, ils n'ont jamais connu de festival, donc ils ont vraiment envie de connaître une édition normale d'un festival.
C'est vrai que pour un festival local, parce que alors certes, vous rayonnez sur la Loire-Atlantique, mais j'imagine que dans l'organisation, voilà, ça reste très local sur Saint-Colomban, les alentours. Et puis il y a toute une, pas une génération, ce serait trop, mais il y a quelques jeunes qui n'ont pas connu cette fête et ce beau rassemblement.
C'est ça, et comme vous dites, les jeunes, on a en termes de bénévoles, on est un peu en manque, parce qu'on est des bénévoles, l'association ça existe depuis 30 ans, alors forcément il y a eu du renouveau d'année en année, mais on est quand même sur l'organisation, on va dire sur une moyenne d'âge, je dirais un peu plus de 30 ans, quoi. Donc c'est vrai qu'on aimerait qu'il y ait plus de jeunes qui s'investissent dans les assos locales, et notamment dans les festivals.
Et pour cette édition, vous attendez à peu près combien de personnes? Pas en bénévoles, hein, en public.
En public, on attend 14 000 personnes sur le week-end, donc 7 000 personnes par soir.
Ça, c'est une année normale, entre guillemets, hein, c'est ça.
C'est ça.
Alors, pour l'affiche, pour l'instant, on connaît 3 noms, c'est bien ça?
On en connaît 4.
Mais il n'y en avait pas confirmé le dernier, c'est ça?
Alors, on a Trio, les Orques de Barbac,
Vald et Bilix.
Ah, fort. Oh, okay. Belle programmation. Bon, ouais, super. Il y a d'autres exclus qui peuvent se dévoiler dans les prochains jours, les prochaines semaines?
C'est ça, on y travaille. Dans les prochains jours, peut-être pas, mais dans les prochaines semaines, oui, on a un programme qui va se dévoiler au fur et à mesure, en effet.
D'accord, tout n'est pas bouclé, hein, on est d'accord.
C'est ça, il nous manque encore quelques petits noms, mais ça devrait se boucler rapidement.
Voilà, bah merci d'avoir répondu à nos questions. Festival Mégascène, 2 ans d'absence, le retour en 2022 au sud de la Loire-Atlantique, Saint-Colomban, pour être plus précis. Merci Teddy Motion.
Merci.
On vous souhaite avec l'équipe et la nouvelle équipe plein de joie pour cette version 2022 de Mégascène.
It West. Écoutez, c'est la rediff de Sur Place ou à emporter.
Festival, on y croit. Sébastien Brochard était avec nous, c'est programmateur du Festival Facessi en Vendée et puis sur un nouveau projet. Salut Sébastien.
Salut.
Alors, on parlait de ces 2 ans. Pour certains, c'était arrêt total. Pour d'autres, on a réorganisé l'année dernière. C'était le cas de Facessi, entre autres. Hein. Toi, tu t'es lancé dans un nouveau projet et on peut dire que c'est complètement fou de se lancer dans une première édition d'un festival en 2022. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête pour monter Unity ou Unity, un nouveau festival qui se déroulera l'été prochain au Sable d'Olonne?
Bon, déjà, je suis pas tout seul dans cette histoire. Il y a toute une équipe qui est là avec moi. Moi, j'ai été embauché par la société Evenstar Productions au Sable d'Olonne, qui a eu un mandat en fait de l'association Unity, qui s'est créée pendant le confinement. Hein. Et l'envie, c'était vraiment de monter un projet au Sable d'Olonne d'envergure, de musique actuelle, ce qui n'avait pas vu le jour depuis longtemps. Et c'est vrai que moi, originaire des Sables d'Olonne, les copains que j'ai rencontrés de la société Evenstar également, on a tous eu envie de monter ce projet. On a eu un peu de temps avec tout ça pour réfléchir, pour monter ce beau projet, cette belle édition, cette première édition, voilà, on est super contents.
Alors moi je me permets, pourquoi maintenant? Pourquoi pas avant?
Mais pourquoi pas maintenant, j'ai envie de dire, c'est le moment.
Oui, c'est vrai.
C'est parti, quoi, ça y est, enfin, on va enfin pouvoir respirer, quoi, et on sent que ça revient petit à petit, voilà, il faut faire les choses avec prudence, bien évidemment, avec sincérité, comme on les a toujours fait, et c'est parti, enfin, voilà,
c'est un festival en plein air ou en salle?
Un festival en plein air, avec une jauge environ de 6 à 8 000 personnes, on peut aller un petit peu plus loin, on espère que pourrait même aller encore un peu plus loin, ça, on verra comment ça va évoluer. Mais en tout cas, on y croit à fond, on a mis tout notre cœur et notre niaque sur la programmation, on est suivi par l'agglomération des Sables d'Olonne.
Hein, ouais, voilà. Est-ce que c'était une volonté, ça c'est une question, c'était une volonté des Sables d'Olonne ou c'est vraiment un projet à part que vous êtes venu présenter à la municipalité?
C'est un projet à part, c'est un projet clairement privé. On est allé rencontrer les élus, on leur a proposé ce projet, ça a matché. Il y a bien évidemment un soutien logistique super sympa et un suivi en communication parce que voilà, ils sont fiers d'accueillir ce projet chez eux et nous on est fiers de le faire chez nous, bien évidemment. Donc voilà, il y a un vrai travail de collaboration hyper hyper chouette quoi.
Bon, c'est bien de parler d'un festival, c'est bien de donner les dates et puis l'affiche hein, 29, 30, 31 juillet donc au Sable d'Olonne. Alors annoncé Patrick Bruel, Dadju, Grand Corps Malade, Louane, Kenji Girac et puis des petits nouveaux puisque la liste s'est étoffée ce matin lors de la conf de presse qui se déroulait au Sable.
C'est vrai qu'on a annoncé ce matin sur le vendredi MB14 qui va faire l'opening en fait du festival. Hein. On connaît un peu avec le groupe Biriwam qui était aussi passé à The Voice, qui avait vraiment qui s'est fait connaître à ce moment-là. Donc on est sur un beatboxer mais un super chanteur également, donc ça va être vraiment un très bon moment, très rythmé, très énergique. Ensuite on va enchaîner en fait sur le vendredi avec le deuxième nom qu'on a annoncé aujourd'hui, c'est LDJ qu'on a découvert en 2014-2015 avec leur mash-up, avec leur musique soleil, vraiment d'été, quoi. Donc là, on colle vraiment avec la thématique du chant et de l'énergie.
En fait, on a les locaux aussi, hein.
Le samedi, on a annoncé les copains, quoi, voilà, qu'on pouvait pas oublier sur une programmation comme celle-ci, parce qu'ils ont toute leur place. Bien évidemment, le groupe Léonie, on est très fiers de les avoir.
Et puis alors, il y a deux autres noms, je me permets de te bousculer, Sébastien, il y a deux autres noms, en plus de Patrick Bruel, Dadju, Grand Corps Malade, Louane Kenji Girac, annonce d'Offenbach et de Kimber Rose, qui sont là aussi,
des grosses pointures.
Ouais, on est très contents sur Offenbach pour le samedi, parce qu'on va vraiment, l'idée c'est de transformer le Havre d'Olonne en piste de dance floor de folie. Et
ça va être réussi.
Bah voilà, il faut qu'on se retrouve, c'est ça Unity Festival, on va se retrouver tous ensemble sur un événement festif.
Combien de personnes on attend pour cette première édition?
6-8 000, il disait tout à l'heure Sébastien Brochard,
ouais, en plein air. Bah, et peut-être plus. En espérant, ça va marcher. Bah, quoi.
En espérant, mais en tout cas, nous, on a cette ambition et on pense qu'en effet, on peut les atteindre et puis parce que les gens ont envie de sortir, sincèrement. Voilà, on l'entend tous les jours, ouais. Tout le monde a envie en plein été, voilà, on a le cadre qui va bien au bord de la mer. Je suis pas inquiet quoi. Et au contraire, on va tout faire pour et on est très content. En tout cas,
29, vraiment très 30, 31 juillet. Beaucoup, beaucoup de monde au Sable d'Olonne pour cette première édition du Festival Unity. On suivra de très près, de toute façon, Sébastien, avec cette jolie affiche pour une grande première. Et puis voilà, des artistes qui parlent à tout le monde et on est vraiment multigénérationnel. Merci d'être venu en parler
merci, sur
EatWest.
Merci à vous de m'avoir accueilli, c'est super.
Avec plaisir, comme d'habitude, la billetterie est ouverte. On retrouve toutes les infos sur unityfestival.fr.
It West vous explique.
Envie de retrouver Dolores.
Je suis là.
Dolores. Bonjour.
Salut.
Bon, une question aujourd'hui, surtout une réponse que nous attendons de ta part.
Oh,
Mais oui, comment ce virus Omicron va nous sortir de cette galère?
On y croit en tout cas, car ce variant Omicron peut nous sortir de là, les amis. Les contaminations se sont comptées en centaines de milliers ces derniers jours et semaines, et cela pourrait sonner la fin de la pandémie. C'est l'OMS qui, pour une fois, a annoncé la grande nouvelle. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la fin de l'épidémie en Europe devient plausible parce que ce variant est justement très contagieux et qu'il a contaminé beaucoup, mais vraiment, vraiment beaucoup de monde. Moi, je n'ai jamais eu autant de cas de Covid autour de moi.
Ah, c'est clair.
Petite pensée à Catel.
Comme des dominos.
C'est ça. Alors, selon l'OMS, 60% des Européens auront été contaminés d'ici le mois de mars. Et que ça, combiné à l'immunité conférée par le vaccin, eh bien, cela devrait nous aider à atteindre une forme d'immunité globale sur le continent.
Et ensuite, ça va devenir comme la grippe, c'est ça?
On l'espère un peu comme le rhume. Oui, il est possible qu'il se passe ce qui s'est passé avec les autres coronavirus, qu'on se retrouve avec un virus qui ne rend pas les gens très malades et qui circule un peu en bruit de fond, oui. Il reste une interrogation quand même. Est-ce que ce variant Omicron va permettre d'arriver à cette situation d'un virus pas grave, très contagieux et qui fait que la population est bien protégée à long terme? Ou est-ce qu'il faudra encore attendre un ou deux variants derrière avant d'arriver à cette situation? Ça, pour l'instant, on ne sait pas et on croise les doigts.
Bon, en attendant, on lève quand même les jauges demain.
Oui, lever des jauges le 2 février dans les établissements accueillant du public assis, stades, salles de concert, théâtre, lever du port du masque en extérieur et fin du télétravail obligatoire. Retour des discothèques le 7 février et des concerts debout.
Pourvu que ça dure.
Oui, ça tombera bien pour le soir avec Amir, notamment notre It West Live qui tombe le 16 février.
C'est ça. Et puis Gims au Zénith de Nantes. Moi, je suis prête. 20 février.